Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Benjamin Muller. Oui, le fameux papa de la maison des maternelles et du podcast du même nom. Père de 3 enfants, il est aussi auteur de plusieurs livres, notamment sur les paternités. Son travail accompagne aussi nos couchers avec Sarah et son podcast Encore une histoire qu'il produit avec sa femme, Céline Kallmann. Ces chouettes histoires sont d'ailleurs aussi publiées en livre et je vous les recommande. Je vous précise que cet entretien a été réalisé en 2 fois. Une première fois où Benjamin était en promenade, on trouvait ça chouette d'essayer d'avoir le bruit des oiseaux, et puis même lui ça lui plaisait, donc on a voulu tester, mais malheureusement techniquement nous n'avons pas pu continuer. Et donc vers 14 minutes 40, vous allez entendre un basculement que je signale d'ailleurs en disant qu'il est rentré. Ensemble, nous allons échanger sur différents sujets concernant la parentalité et surtout les paternités en 2022. Voici quelques-uns des points que nous allons voir. Comment la paternité actuelle vient bousculer les masculinités et la virilité? Quelle est la place de l'éducation bienveillante dans la paternité aujourd'hui? Quel rôle modèle voit-on pour les pères aujourd'hui? Nous aurons une réflexion sur les réseaux sociaux et les messages qui y sont véhiculés. Dans quelle mesure l'évolution de la paternité est un levier d'égalité homme-femme? Et je vais tout de suite commencer par la première question. C'est quoi un nouveau père en 2022? Je vous souhaite une très bonne écoute.
J'adore parce qu'on commence tout de suite par la question, tu sais, où tu peux pas apporter de réponse. Parce que
t'as raison,
c'est vrai que c'est déjà ce qui est une bonne entrée en matière, c'est de dire que je crois qu'on parle des nouveaux pères, ouais, depuis les années, fin des années 70-80. Donc en fait, la notion de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, mon père était presque déjà considéré comme un nouveau, dans ces nouveaux pères qui s'investissent. Et dans 20 ans, on parlera sans doute encore de nouveaux pères. Mais si on devait définir aujourd'hui, moi, tu vois, ma définition, qui n'est pas celle d'un sociologue, mais je dirais que le nouveau père, c'est celui qui ne considère pas que parce qu'il prend sa part dans l'éducation des enfants, aide sa femme, mais il fait main dans la main avec sa femme. La petite nuance, ce serait ça. Ce serait de ne pas considérer que le père est un aidant, un assistant des mamans, mais que c'est du chacun prend sa part, équivalente, etc. Donc ça va de l'investissement, des tâches ménagères, des tâches domestiques, à aussi l'amour que tu vas donner à ton enfant, etc. C'est vrai que c'est celui qui considère que c'est du kiff-kiff, c'est normal, la charge mentale, la répartition, les prévisions, etc. de tout cet ensemble-là. Je dirais que le père d'aujourd'hui, c'est ça.
C'est vrai que moi, je te rejoins assez là-dessus. Et c'est vrai que cette petite nuance que tu apportes, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais c'est vrai que cette petite nuance que tu apportes, notamment dans l'utilisation des mots, quoi, du fait de parler d'aider ou encore d'épauler, c'est quelque chose qu'on voit souvent voilà. Quand même. On entend souvent encore ces mots qui sont utilisés, alors que finalement, quand tu prends le sens du mot lui-même, en fait, épauler, par exemple, bah, tu n'es pas la personne qui est en charge d'eux. Tu vois, c'est pas coopérer, collaborer.
C'est
quoi.
Exactement ça.
C'est bien que quelque part, tu dis que bah, c'est bien la mère qui est en charge. On y reviendra sûrement après. Ces bouleversements qu'on observe dans la figure paternelle, la notion de paternité, ces rôles qui évoluent, à ton avis, dans quelle mesure ça vient percuter, ça vient modifier l'image qu'on a de l'homme, tu vois, de l'homme avec tous les stéréotypes de genre qu'on peut avoir dessus, quoi.
Ouais, t'as raison, c'est comme la question du mot virilité, tu sais, quand il y a un podcast qui s'appelle Bonhomme, je sais pas si tu connais, qui est réalisé par les équipes de GQ, et c'est vachement bien, la question c'est toujours de savoir c'est quoi pour toi aujourd'hui être viril, c'est quoi pour toi, et ce qui est marrant c'est que chaque invité a une réponse différente, et c'est ça qui moi m'intéresse, parce que les représentations des hommes aujourd'hui, tu vois, si on demande par exemple à ma femme ce qu'est pour elle un homme, et si on demande à la tienne, et si on demande à la femme qui est en face de moi en train de manger son sandwich, bonjour madame, je pense qu'elles auront toutes les trois une réponse différente, et moi c'est ce que j'aime, c'est essayer de pas mettre les choses dans des cases. Ce qui est sûr, c'est que je pense que la définition de l'homme d'aujourd'hui, c'est plus Stallone, quoi, au sens large. Je pense que l'homme idéal n'est plus Stallone, si tant est que ça ait déjà été l'homme idéal, mais l'homme qui n'a pas de cœur, pas d'émotion, qui est une brute, tu vois, qui est là pour ramener à bouffer, il met les pieds sous la table, il met un coup à maman et il boit un verre de whisky. Je pense, voilà, globalement, on est quand même sorti de ça. Je pense que c'est de mieux en mieux vu par la société, un père qui ose dire à son enfant qu'il l'aime, tu vois, qui ose dire au travail, bah non, je vais prendre mon congé paternité. Tout ça, c'est de mieux en mieux vu, donc ça fait que ça modifie l'image qu'on a des pères, c'est-à-dire les pères ont aussi une sensibilité, bien évidemment. Enfin là, je te donne des poncifs, mais il y a encore beaucoup de gens chez qui c'est pas fluide, ça. Donc je pense que voilà, globalement, si la société devait avoir une image de l'homme, je pense que ça évolue, selon moi, dans le bon sens. Mais en revanche, ça évolue pas assez vite, et surtout pas partout, pas de la même manière. D'ailleurs, tu vois que c'est des sujets qui prêtent à crispation, alors que pour moi, ça devrait être des sujets dont tout le monde devrait se saisir, quoi. Je veux dire, y a pas une... Moi, je peux pas te dire l'homme, c'est ça, l'homme doit être ça, l'homme doit être comme ci. C'est impossible de faire ça, on peut pas parler au nom des gens. Mais je trouve qu'on devrait pouvoir en parler sereinement, et c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, sur un sujet qui est quand même... Tu vois, on parle de quoi là? On parle d'amour, on parle de famille, on parle de trucs normalement assez joyeux de la vie, quoi. Tu vois, un peu le sel de la vie. Et c'est très étrange de voir les crispations sur ces questions. Moi, ça m'étonne beaucoup.
Mais moi, je suis toujours étonné de voir justement la fragilité des réactions justement sur ces sujets de masculinité et de virilité, quoi, où on prône certains... On peut entendre encore prôner certains discours de force, et que dès qu'on vient à peine effleurer le fait de les remettre en question, il y a une grande fragilité de non, mais surtout, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas en parler. Et puis, il y a aussi ce côté très, très essentiel, tu vois, sur des notions notamment de virilité, quoi. Tu parlais de Stallone, mais finalement, Stallone, on ne sait pas comment il était avec ses gosses, tu vois.
Bien sûr.
Si
ouais.
C'était un père aimant, on ne sait pas si. Peut-être que Stallone, il faisait le ménage chez lui avec un petit tablier rose tout en pouponnant.
Bien sûr.
Je grossis le trait, mais. Mais il y a vraiment cette peur de la virilité qui vient rejoindre. Bon, toi et moi, on est quand même des mecs qui avons grandi à peu près à la même époque. On a connu cette injonction à la virilité. Et elle est encore très présente quand même.
Ouais. Je sais pas, moi, si elle est encore très présente. En vrai, je sais pas si elle est encore si présente que ça. Moi, je pense que qu'une fois encore, ça évolue. C'est Philippe Catherine justement dans GQ qui disait mais moi je déteste la virilité, le principe d'être un bonhomme parce que j'ai des couilles, tout ça. Et tu vois, quand il le dit, moi ça me faisait marrer parce que c'était Philippe Catherine et tout, mais je pense que c'est un message qui maintenant a sa place. Autour de moi, dans mon entourage, les copains, tout ça, même dans la génération plus âgée et tout, j'ai pas l'impression d'avoir affaire que à des bonhommes au sens, tu vois. Au sens, comment je pourrais dire, au sens des Grecs, quoi, même pas des Grecs, c'est pas ça, c'est au sens des Vikings plutôt. Tu vois, les mecs qui rentrent, qui puent, qui se lavent pas, tout ça, je pense quand même que tu vois, ça évolue quand même.
Non, mais attends, je précise, là tu parles pas de viril, là tu parles de crado.
Mais est-ce que c'était pas sale. Associé à un certain moment?
Peut-être, peut-être.
Bien sûr, non, mais est-ce que vrai, c'était peut-être, pas peut-être. Associé? Après, tu vois, moi, en vrai, j'ai pas de vérité absolue là-dessus. Je m'interroge beaucoup.
Oui, tout à fait.
Parce que je me dis quand même, la virilité, d'une certaine manière, d'ailleurs, c'est pas forcément masculin, la virilité, ça peut aussi être féminine, mais elle peut rester aussi une qualité. Je veux dire, si la virilité, c'est d'avoir confiance en soi, d'être un roc sur qui les proches, ton amoureuse, tes enfants, tout ça, peuvent compter parce que toi, t'es viril, c'est-à-dire que t'es un arbre costaud sur lequel on peut compter. Si c'est ça la définition de virilité, bah, c'est une qualité merveilleuse. En revanche, si la virilité, c'est écraser les autres parce que t'es un arbre trop costaud, là, tu vois, c'est là que ça pose problème. Mais donc, moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. C'est typiquement le genre de mot et tout sur lequel il y a plein d'interprétations possibles. Et le manichéisme n'a pas sa place sur cette question-là. C'est-à-dire que toi, tu donnerais quelle définition à la virilité aujourd'hui? Ça m'intéresse beaucoup.
Pour moi, la virilité, c'est quelque chose, tu veux, qui est... C'est bien, je me fais interviewer dans mon propre podcast. Si tu veux, pour moi, la virilité aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu comme tu le disais, c'est-à-dire d'avoir une capacité. En fait, moi, c'est pas tellement comment tu es, mais d'avoir une capacité de virilité. Moi, je le vois comme ça, en fait. C'est-à-dire d'être capable, à un moment, de bloquer tes émotions, en effet, de tenir droit, de comme un roc, en effet, et d'avoir une certaine, je dirais, présence physique face à une potentielle menace. Moi, c'est comme ça que je le vis, tu vois. Cela dit, moi, si tu veux, ce qui a vraiment changé par rapport à mon idée de la virilité, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que maintenant, je le vois comme une compétence, de pouvoir développer une certaine vision de la virilité par moment, parce que mon environnement n'est pas toujours celui des bisounours. Je le vois comme une compétence. Mais j'ai depuis longtemps, si tu veux, abandonné le fait de vouloir absolument être viril, quoi. Et je constate que, pour quand même beaucoup d'hommes, c'est encore un gros sujet. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, sur les réseaux sociaux, en parentalité, il y avait un hashtag qui était le hashtag « Je suis viril pour les papas. En fait, les papas devaient poser en train de faire un truc avec l'enfant et en mettant le hashtag « Je suis viril ». Et ça m'a vraiment percuté parce que je me suis dit, tiens, en fait, comme tu disais d'ailleurs en introduction, on fait juste le job. Mais même quand on fait ça, il faut absolument qu'on puisse se dire qu'on est viril. Tu vois, c'est surtout... Moi, ce que je voyais, c'était surtout ne nous enlevez pas notre virilité, s'il vous plaît. C'est quand même une grande marque de fragilité, paradoxalement.
En fait, je suis d'accord que c'était... je me souviens tout à fait de cette petite, ce truc sur « je suis viril ». Et ça sous-entendait, mais bien sûr, on peut passer l'aspirateur ou, je sais pas, plier le linge et néanmoins rester viril. Et je trouve que d'avoir besoin de le dire me pose problème, tout comme moi me pose problème... ces mecs qui vont se poster en photo en train de faire le ménage ou quoi, en disant « Regardez comme je suis un être exceptionnel parce que je fais le ménage. » Et c'est vrai que toutes les nanas qui voient ça, qui depuis, tu vois, la nuit des temps, se tapent ce sale boulot, se disent « Mais connard, tu vois, moi, je me poste pas quand je fais à manger et quand je débarrasse et tout. » Donc, ouais, malheureusement, le militantisme sur ces questions va parfois avec beaucoup de maladresse. Mais tu vois... c'est marrant que tu parles tout de suite des réseaux sociaux parce que moi, j'essaie de ne pas me fier à ce que je lis sur les réseaux sociaux, en fait, sur ces questions. Mm-hmm. Parce que ça déforme la réalité. Ça déforme parce que c'est souvent les plus extrêmes, les moins nuancés qui prennent la parole. Tu vois, là, tu as des conneries comme « Je suis viril » qui desservent la cause de tout le monde. Je trouve que ça fait passer les gars pour des guignols, ça fait passer les nanas pour des... Parce que du coup, les filles qui commentaient, elles étaient là aussi extrêmes, insultées. Donc, je trouve, tu vois, moi, j'aime bien la nuance, j'aime bien la mesure. Et les réseaux sociaux, pour ça, moi, je trouve que c'est pas fait. Moi, je trouve les réseaux sociaux, c'est super pour plein de trucs. En revanche, pour le débat d'idées, là aussi, j'enfonce un peu une porte ouverte. Mais je trouve qu'il vaut mieux se renseigner ailleurs, quoi. Essayez. Et je sais pas, toi, ça doit être pareil. Mais quand t'es avec des copains qui ont à peu près nos âges, l'âge de nos enfants et tout, que tu discutes, t'es quand même d'accord que, tu vois, il y a quand même des compromis. Tu sens que les choses évoluent, step by step et tout. Alors que là, si tu mets un truc sur Twitter, boum, tu prends des insultes, t'es qu'un connard, t'es soit un gros misogyne, soit à l'inverse, hein, je sais pas quoi. Donc là, ouais, les réseaux sociaux, moi, j'en suis un peu revenu. Quoi. Et d'ailleurs, le podcast, pour ça, c'est un peu l'outil rêvé. Parce que là, toi et moi, on a le temps de discuter, justement, de mettre les nuances qu'on a envie de faire. Et on a le temps de pas être d'accord sans s'engueuler, tu vois, et ouais, je prends plus le podcast pour le débat d'idées.
Non, mais de toute façon, là où je te rejoins complètement, c'est qu'une discussion entre mecs, si tu veux, dans la vraie vie, on va dire, si tu veux. Et puis même, tu vois, on a eu l'occasion de se rencontrer. J'ai rencontré d'autres darons que j'ai vus sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout pareil, évidemment, quand t'es en vrai, tu vois. Parce qu'en effet, tu peux nuancer, parce que tu peux réagir en fait aussi sur un propos qui est donné à l'instant, tu vois. Des fois dire, attends,
voilà, qui est pas contextualisé.
Ça me pique un peu ce que tu dis là. Tu peux préciser, s'il te plaît. Enfin, tu vois, on peut, comme on le fait dans un podcast, hein, par ailleurs, on peut très bien faire ça. Et c'est vrai que sur les réseaux, il y a vraiment cette tendance-là à toujours tout polariser. Mais néanmoins, si tu veux, je trouvais ça intéressant de voir à quel point c'était quand même. Ça avait été repris, si tu veux, en montrant que vraiment on veut bien des darons impliqués et tout, mais surtout, laissez-nous notre virilité. Je trouvais qu'il y avait, tu sais, un côté à s'accrocher comme ça à ce concept qui était très fort. Alors que, à l'opposé, tu as des mecs comme Ben Vert qui sortent un livre qui s'appelle Je ne suis pas viril, tu vois. Donc, en effet, il y a des évolutions de masculinité et de virilité sur le sujet.
Ouais, bah, tout à fait. Après, moi, tu vois, j'aurais du mal à te dire. Est-ce que ça reste une qualité? Parce que, à l'inverse, dire je ne suis pas viril, bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que je n'ai pas lu le livre, hein. Donc, je ne peux pas en parler des heures, mais je ne sais pas. Viril, c'est que un défaut, la virilité, là, une fois encore. Je ne suis pas sûr que ce soit que un défaut.
Mais c'est quoi
je suis pas en train de te dire que moi je le suis. Hein.
Mais, bah, justement, mais c'est quoi ta définition de la virilité?
je te disais, selon moi, il y a deux définitions possibles. La virilité, c'est soit. Le côté, le bonhomme qui se coupe de ses émotions, qui en a rien à foutre de rien, qui avance coûte que coûte et qui t'écrase, bon, voilà, c'est un peu la définition que je pense ont pas mal de gens en tête, qui est selon moi, bon, évidemment, tu vois, là, dans ce cas-là, c'est un défaut, il n'y a aucun problème. Mais si tu te dis que la virilité, c'est ce qui fait de toi un pilier de tes proches, voilà, voilà, on va le dire comme ça, sans notion de paire de couilles. C'est-à-dire que c'est pas genré. Si tu considères que c'est pas genré, dans ce cas, pour moi, c'est pas un défaut. Si le, la définition de la virilité, c'est d'être quelqu'un de solide sur qui on peut compter, moi, ça me va. Mais une fois encore, pour beaucoup de gens, c'est pas ça, la définition.
En fait, donc, si tu veux, pour moi, je donne un avis très personnel, qui est aussi un petit peu mon avis de thérapeute, faut pas se mentir, c'est que pour moi, ouais, toute notion qui te définit et à laquelle tu dois absolument correspondre pour pouvoir te sentir bien et exister, c'est quelque chose qui va pas te faire du bien, en fait. Tu vois, même le fait d'être quelqu'un de gentil, empathique, serviable, ce sont quand même des qualités, tu vois. Mais si tu n'es que ça, 100% du temps, et que tu mets en place tous les comportements pour n'être que ça, bah tu t'oublies, tu vois, tu t'oublies, et puis ça veut dire que t'as pas le droit de temps en temps piquer une colère, enfin, tu vois. Et en fait, tu te déshumanises, finalement, tu vois. Mais c'est comme tu disais, il y a la définition du dictionnaire, il y a aussi la définition sociale, qui est quand même des fois différente, tu vois. Et après, il y a le vécu chacun personnel du sujet. Il y a des hommes, moi je connais des hommes, sur moi quand je vois, par exemple, je vais donner un exemple tout bête, The Rock, tu vois, on peut pas dire que c'est pas un mec viril, tu vois, concrètement. Je veux dire, le mec, il est baraqué, enfin, tu vois, a priori, il est quand même dans les standards de virilité. Bah écoute, le mec, quand tu regardes ce qu'il veut bien nous montrer aussi, hein, j'entends, mais quand tu regardes les séquences de famille qu'il partage, le mec, pendant que sa femme allaitait, il lui préparait des petits plats, il lui donnait à manger la fourchette à la bouche, quoi. Si c'est ça la virilité, ok, ça me va aussi. En fait, c'est que ça doit pas, pour moi, ça doit pas être un concept limitant. Bon, bah merci Benjamin pour cette petite promenade que tu viens de terminer.
Ouais, c'est ça.
C'était champêtre, c'était chouette.
Il y avait des petits problèmes d'ordre technique. Donc là, voilà, je suis rentré, je suis à l'abri dans une pièce fermée. Voilà, ça ira mieux, il y aura moins de bruit derrière, je pense, en plus.
Et on va pouvoir reprendre. Donc merci encore une fois pour ces sujets. Donc, on a déjà parlé hein, de pour le coup de la figure des nouveaux pères, du sujet de la virilité, un petit peu de la masculinité. Mais tu vois, il y a une autre question que je me demandais, c'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'éducation bienveillante, positive. À ton avis, dans quelle mesure ça vient challenger l'image de la paternité et un petit peu de la masculinité aussi, puisque on se rappelle de la figure paternelle, figure d'autorité, d'obéissance, de discipline et voire de violence. Donc, comment est-ce que cette éducation bienveillante vient nous challenger, nous les hommes, les pères ?
Eh ben, je pense que ça vient challenger ceux qui s'y intéressent déjà. Je pense qu'il y a, et ceux qui s'y intéressent pas et ceux qui méprisent le principe d'éducation bienveillante vont le caricaturer. Et je dois dire que c'est tellement facile de caricaturer l'éducation bienveillante. Tu sais, il y a des films qui le font très bien, il y a des sketchs qui le font très bien, mais t'imagines ton enfant qui fait une colère monstre au supermarché. Il faut dire qu'il y a aussi des théoriciens de l'éducation bienveillante qui ont un peu donné les bâtons, quoi, c'est-à-dire qui ont un peu contribué à cette image. Et donc, c'est typiquement le père ou la mère va se mettre à genoux, va poser toutes ses courses et va dire à son enfant « Mais bien sûr, tu as le droit de faire une colère au supermarché. Laisse libre cours à tes émotions. De quelle couleur est l'émotion qui te traverse, etc. » Sous-entendu, vraiment, toi, tu deviens victime de ton enfant et tout. Alors qu'évidemment, l'éducation bienveillante, c'est pas ça. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'être à ce point dans l'écoute permanente. Et donc, comme c'est caricaturé, je pense qu'il y a plein de gens qui, du coup, parce qu'effectivement, ça va chambouler leurs convictions sur les manières d'éducation, parce que sans doute aussi, quand eux étaient enfants, ils n'ont pas été dans ces modèles d'éducation bienveillante, c'est plus facile de se dire « non, mais c'est un truc de bobo qu'autre chose ». Et d'ailleurs, c'est assez marrant, moi j'avais écrit un petit livre il y a 2-3 ans sur le sujet de l'éducation bienveillante, et j'étais allé, je me souviens, c'était sur Europe 1, faire une émission où, tu sais, les auditeurs appelaient, et puis voilà, ils donnaient un peu leur avis sur le truc, et puis éventuellement me poser des questions ou pas. Et ça commence par une dame qui appelle. Donc, tu vois, on commence par une petite introduction sur qu'est-ce que l'éducation bienveillante. Donc, moi, je rappelle, c'est l'éducation bienveillante, c'est les bases, pas de violence. C'est il faut un cadre, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est tu considères l'enfant comme un être à part. Enfin, ce que tout le monde, je pense, les gens qui écoutent là, je n'apprends rien à personne, mais tu considères ton enfant comme un être à part entière, tu l'écoutes, il a le droit de donner son avis. Bon, voilà, les trucs de base. Premier appel d'une dame, bonjour, j'ai 3 enfants. Donc, elle me dit bonjour. Et là, elle me dit, bon, j'ai pas envie d'être méchante avec votre invité, mais encore, c'est le prototype du bobo qui est né à Paris, qui a pas d'enfant et qui vient nous donner des leçons sur comment élever nos enfants. Donc, moi, je laisse un peu passer le truc, je dis rien, tu vois. Moi, je suis pas né du tout à Paris, je suis né à Metz, je suis arrivé à Paris pour bosser, j'ai 3 enfants. J'adorais encore un bobo qui a pas d'enfant. Bah, madame, j'en ai 3 comme vous, qui étaient un peu plus âgés que les siens en plus et tout. Et donc, après, du coup, on a pu avoir une discussion qui était intéressante parce que du coup, elle s'est. Ah oui, non, en fait, il donne pas de leçons parce que ça peut être juste concret, l'éducation bienveillante, et ça peut juste t'aider dans ton éducation. On n'est pas là à donner des leçons à la terre entière, c'est juste que ça peut être mieux après, quand tu passes à l'éducation bienveillante. Donc voilà, je ne sais plus trop quelle était ta question, mais ce sujet est marrant parce que comme il est caricaturé, on ne peut jamais réellement en parler, sauf à être convaincus tous les deux. Je pense que toi et moi, on est tous les deux convaincus de l'éducation bienveillante, du coup, on va pouvoir en parler à peu près sereinement. Mais si tu en parles avec quelqu'un pour qui c'est Bobo Land, ça ne matche pas les conversations sur ce sujet.
Alors, je te remercie d'ouvrir cette petite fenêtre. Je reviendrai à ma question d'origine après.
Ouais, je sais plus ce que
c'était. Je te remercie d'ouvrir cette petite parenthèse parce que tu rappelles quelque chose qui est important. Tu vois, j'écoutais il n'y a pas longtemps dans le podcast d'une psy qui disait que l'éducation positive, donc bienveillante, éclairée, tout ce qu'on veut, c'est l'absence de limites.
Ça, c'est Caroline Goldman que tu as écouté.
Ouais. Ouais, qui dit que c'est l'absence de limites. Or, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, même dans la définition même du Conseil de l'Europe, c'est bien explicité. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler que c'est pas le cas, en fait. En fait, juste pour schématiser, parce que, en effet, les gens qui nous écoutent connaissent sûrement le sujet, mais j'ai bel espoir que d'autres personnes ne connaissent pas le sujet et vont nous écouter quand même. Ce qu'interroge l'éducation positive, c'est pas la présence d'un cadre, mais la violence du cadre. Et ça, c'est vrai que c'est une nuance qui convient de rappeler, et je conviens aussi de manière tout à fait absolue, et je te rejoins que certaines personnes qui parlent d'éducation bienveillante ou positive peuvent donner l'impression que c'est bisounoursland et que non, parce que c'est pas ça, et parce que c'est pas bon non plus pour les enfants. Hein, je rappelle que l'éducation positive, c'est un cadre qui est bon pour les enfants et pour les parents, donc il faut que tout le monde s'y retrouve. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté que tu disais, Boboland. Il y a aussi ce côté qui est très, tu vois, il y a des notions qui sont totalement farfelues, qu'on entend, telles que l'enfant roi, des choses comme ça, qui sont des notions qui viennent d'un autre temps, d'un autre siècle, tu vois. Concrètement, le fait de pratiquer une éducation dite positive ou bienveillante, ça n'implique pas du tout de se laisser faire, entre guillemets, je mets des gros guillemets, et de s'oublier dedans, quoi. Après, bien entendu, chacun chemine d'où il vient. Et pour le coup, je reviens à ma question. Est-ce que toi, en tant que père, le fait de penser cette éducation bienveillante, ça t'a perturbé dans ton image de la paternité? Alors, c'est vrai que tu me disais que toi, tu avais quand même grandi dans un milieu qui était pas ou peu violent. Moi, si je vais te prendre mon exemple en introduction, c'est que moi, par exemple, j'ai connu le martinet, la fessée, la gifle, l'humiliation, l'insulte, la punition. J'ai connu, voilà, tout ce beau petit panel. Et c'est vrai que quand je me suis aperçu que je voulais être un père qui ne pratiquait pas de violence, je me suis dit, putain, merde, mais c'est quoi d'être père? Tu vois, ça a vraiment interrogé le modèle. Est-ce que toi, pour le coup, toi, c'est pas une question que tu t'es posée alors?
Bah, du coup, c'est tout à ton honneur, je veux dire, de t'intéresser et t'investir sur ces sujets, parce que du coup, t'es allé un peu contre ce qu'une partie de toi était, c'est-à-dire si tu nais avec un modèle, même si c'est un modèle, enfin, c'est compliqué d'aller contre les manières d'éducation, je trouve. Donc, c'est tout à ton honneur. Moi, je dois dire que c'est, moi, j'ai été élevé dans la bienveillance totale. Si tu veux, je te fais le fil. Moi, mes parents, ni l'un ni l'autre, ne m'ont jamais levé la main sur moi. Alors, j'ai peut-être eu une fois une tape sur les doigts, tu vois, et je m'en souviens pas. Voilà, mon père médecin, ma mère puéricultrice en PMI. Donc, comme tu l'imagines, tous les deux sensibilisés vachement sur ces questions. Du côté de ma mère, elle-même avait des parents qui ont eu 5 frères et sœurs et éducation dans la bienveillance totale. Moi, quand j'allais chez eux, tu vois, c'était un peu les bisounours, pas au sens où ça part en vrille, mais au sens où oui, on est dans la bienveillance, les enfants avaient le droit de parler à table, etc. Donc, du coup, moi, mon modèle de masculinité n'est pas toxique, si tu veux, pas du tout. Et donc, dans la paternité, j'ai pas eu à aller contre ce qui est mon fort intérieur, j'ai pas eu l'impression d'aller contre moi-même ou quoi que ce soit. Néanmoins, je suis pas non plus, tu vois, je suis pas non plus dans un monde coupé des réalités. Je vois bien que tout le monde ne fait pas comme moi, et en fait, ça m'est déjà arrivé de m'interroger sur ces questions avant de, si tu veux, commencer à lire des auteurs et vraiment d'essayer d'intellectualiser un peu ces questions. Quand j'étais jeune père, comme tout le monde, tu te fais un peu bouffer par tes enfants. De toute façon, tout le monde se fait plus ou moins bouffer par ses enfants à un moment ou à un autre. Quand j'étais jeune père, c'était une petite période où, tu vois, un peu plus dure sur les questions de sommeil, sur tout ça. Donc, je m'interrogeais. Et je me souviens, on était une ère un truc de famille où il y avait, tu sais, un château gonflable. Et il y avait deux gamins, deux jumeaux, qui avaient l'air d'avoir de l'énergie, qui sautaient, machin, ils jouaient, ils avaient 4 ans. Et le père, à un moment, arrive, et il leur dit « Machin, machin, vous mettez vos chaussures, on s'en va. » Tu vois, un ton ferme, dur. Les deux, qui faisaient un peu les cons, s'arrêtent, mettent leurs chaussures, mettent leurs manteaux, et partent d'une traite. Et moi, si tu veux, j'arrive derrière, je dis à ma fille « On y va », puis il faut lui dire 6 fois, et puis au bout de la 6e fois, elle vient seulement, et tout. Et donc, quand j'avais vu, bon, il se trouve que c'était le père qui disait ça, si ça se trouve, la mère est de la même manière. Mais je m'étais peut-être aussi dit, moi, comme je suis dans cette éducation bienveillante, on discute de tout et tout, peut-être que je ne suis pas assez ferme sur mes positions. Donc je pense, ce que j'aime bien avec l'éducation bienveillante, c'est que c'est une science totalement inexacte, où chaque jour, tu essaies de t'améliorer un petit peu, et à un moment, tu vas rajouter de la fermeté, et puis dans la fermeté, tu vas te dire, oui, mais à être trop ferme, est-ce que je ne suis pas dur? Donc, tu essaies d'en enlever un petit peu, mais du coup, bah, tu te fais un peu bouffer, etc. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Je peux comprendre que l'ancienne génération, si là, elle nous entend, se dise « Mais mec, tu te prends trop le chou, gueule un bon coup, et puis tu te feras respecter. » Franchement, je peux le comprendre, parce que ça vient de haute période et tout. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'y réfléchir sans cesse, pour essayer, tu vois, d'être un meilleur père. Même si, comme tout le monde, mes enfants, dans 20 ans, se diront qu'ils ont eu un père pourri, tu vois. C'est bien normal.
Je sais pas. Regarde, toi, tu te dis pas. Moi, je me dis pas que j'ai eu un père pourri, hein.
Non, mais exemple, quand je dis dans 20 ans, c'était plutôt quand ils seront ados. Donc, c'est pas dans 20 ans.
Oui, bah, alors ça, l'adolescence, c'est autre chose. Ouais.
Non, mais t'as raison. Une fois qu'ils auront mon âge, j'espère qu'ils
mais,
diront.
Mais moi, ouais. Je suis, par exemple, j'ai eu beau connaître ces violences-là. Je me dis pas que j'ai eu un père pourri. J'ai eu un père qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, comme tous les parents, en fait. Tu vois. Et après, c'est moi qui prends des chemins différents. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi un sujet idéologique, je pense, vis-à-vis de la position de l'enfance et de l'enfant et de l'adulte, derrière ce choix éducatif, enfin dans beaucoup de situations. Mais c'est super intéressant comme exemple, si tu veux, parce que, alors pour le coup, j'ai encore ouvert une fenêtre où je parle de moi, mais moi, il n'y a pas longtemps, des gens que j'ai rencontrés qui me connaissaient sur les réseaux se sont aperçus que j'utilisais l'impératif avec ma fille. Et que je ne mettais pas du « s'il te plaît, veux-tu bien, machin », je disais ça. Tu vois, comme tu disais, alors pas sur un ton très ferme forcément, mais en tout cas, quelque chose d'assez péremptoire en disant « ça va, ma chérie, on s'en va, tu mets tes chaussures. » Tu vois, tout simplement, en fait. Et elle s'exécute. Mais elle ne s'exécute pas parce que je lui ai appris à obéir. Elle s'exécute parce qu'avant ça, il y a eu plein de fois où j'ai essayé de donner du sens, où j'ai expliqué que, de toute façon, ça va se produire. Quand je le dis, en fait, ça va se produire parce que pour X raisons, il faut y aller. Et qu'elle, elle a la main sur le comment ça se produit. Voilà.
Ouais.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à creuser et qui permet de rester dans un certain respect de soi-même et un respect de l'enfant, quoi. Mais c'est vrai que ça vient vraiment percuter les modèles qu'on a eus. Et justement, si tu veux, on se parle de modèles, un petit peu de rôle modèle. Donc, il y a ceux qu'on a connus dans nos familles, dans notre espace familial, mais aussi ceux qu'on voit aujourd'hui. Toi, Benjamin, tu as un rôle modèle, par exemple, de la paternité. Ça, je pense que tu en as conscience. Tu es le papa des maternelles.
Oui et non, parce que je raconte pas comment ça se passe chez moi. J'expose pas du tout mes enfants. Je donne rien de ce que je fais, en fait. J'essaye de théoriser, tu vois, je mets ça avec 25 guillemets, tu vois, avec humilité. Mais en revanche, je vais pas te raconter. Donc, je pense pas être vraiment un modèle. Je pense pas que des gens se disent, ah, j'aimerais être un père comme Benjamin est un père, vu que personne sait vraiment comment je le suis. Après, oui, je suis dans l'égalité totale, dans le partage des tâches totale, dans la non-violence totale. Ça, oui. Mais en revanche, concrètement, le reste, c'est le mystère.
Mais je pense que les gens projettent beaucoup quand même, tu vois, sur.
Peut-être. Peut-être.
Sur ce qu'ils imaginent de toi. Toujours est-il que, pour le coup, en termes de rôle modèle, il y en a d'autres. Des darons qu'on voit, moi je pense, enfin moi je sais qu'il y en a qui me prennent pour un rôle modèle, aussi c'est vrai que je montre ce que je fais avec ma fille, mais il y a un constat qu'on faisait toi et moi il n'y a pas longtemps quand tu m'avais convié au podcast des maternelles, c'est qu'il y a quand même aussi, tu vois, tu prenais l'exemple du bobo tout à l'heure, il y a quand même aussi un constat qu'on peut faire et qu'on va faire, en tout cas les pères qu'on voit, je dis bien ceux qu'on voit, hein, pas ceux qui font forcément, mais ceux qu'on voit, c'est vrai qu'il y a un gros sujet de classe, quand même, tu vois, ceux qui s'intéressent au sujet, et surtout ceux qu'on voit, il y a quand même un gros sujet de classe derrière. Est-ce que tu penses que le rôle modèle, pour le coup, c'est... Il y a des pères qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la classe de ce qu'ils voient sur les réseaux, à la télé. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Si on parle de mon cas, est-ce que tu penses que je renvoie l'image de quelqu'un qui est dans une classe supérieure ou privilégiée?
Pas spécialement, mais je pense, et pour avoir posé la question à des gens en préparation de ce podcast, je pense que le simple fait que tu passes à la télé, les gens projettent que t'es riche.
Ok, ce qui est pas le cas.
Je ne sais pas.
Non. Alors attention, je suis pas du tout à plaindre, mais les gens de télé, c'est plus du tout, ça paye plus du tout comme il y a quelques années.
Je te dis ce que les gens projettent, tu vois.
Bien sûr,
globalement, tout va bien. On n'est pas là pour parler d'argent. Il y a un excellent podcast qui s'appelle Histoire d'argent par Fabrice Florent que je vous recommande. Mais moi, je te dis juste que les gens projettent, c'est que tu passes la télé, t'es blindé, quoi. C'est ce que les gens perçoivent. Et est-ce que pour le coup, est-ce que ça joue, si tu veux, est-ce que ça joue dans la perception qu'ont les gens du fait que l'éducation bienveillante, c'est réservé à une espèce de classe supérieure, quoi.
Ouais, alors moi j'aime bien parler d'argent parce que c'est un tabou total. C'est pas du tout une passion que j'ai, mais c'est un tabou incroyable. Et je remarque que ça gêne toujours les gens quand on parle d'argent, alors que pour moi ça devrait pas. C'est pas mal de savoir d'où on parle, etc. Et donc, juste pour répondre à ça, en travaillant à la télé, à une émission comme je le suis, t'as un salaire qui est confortable. Franchement, je vais évidemment pas me plaindre, qui est très confortable. Si tu compares avec le salaire des profs qui font un métier ou des sages-femmes qui sont payées 2000 balles par mois à se faire un travail hyper dur et machin, c'est incomparable. On est beaucoup plus payé. Mais on n'est plus blindé comme, tu vois, comme il y a 20 ans où là, les mecs avaient des grandes maisons à Montmartre, tout ça. Ça, c'est fini. Bon, bref, une fois que t'as dit ça, oui, sans doute que quand t'es un peu plus confortable, eh ben, ton esprit est moins pollué par des trucs concrets et tu as un peu plus le temps de réfléchir à des questions comme ça. Sans doute, mais après, dans l'histoire de toutes les discussions et toutes les réflexions intellectuelles, je pense que à la fois, il y a de ça, et à la fois, si je prends autour de moi, je n'ai pas une étude sociologique, mais si je prends mes copains, tu vois, si tu veux, j'aime bien savoir d'où on parle. Donc, je vais t'expliquer. Moi, j'ai un socle de copains qui sont de la région de Metz, de Pont-à-Mousson pour être précis, entre Metz et Nancy, où à peu près au début du lycée, on s'est fait une bande de copains, on va dire une vingtaine élargie aujourd'hui, et on continue de partir ensemble tous les étés ensemble, d'être tout le temps ensemble et tout. C'est vraiment, tu vois, les gars sûrs. Et ben dans tout ce groupe de copains qu'on est ensemble depuis la seconde, il y a à peu près tous les métiers qui sont représentés, toutes les catégories socio-professionnelles, aussi bien dans l'origine des parents que aujourd'hui dans les métiers et sur les salaires. Si tu veux, on n'est pas du tout entre avocat, médecin et journaliste, pas du tout, du tout. Et donc moi, je trouve que c'est les discussions qu'on a là. Typiquement les étés, quand on boit des pastis à 18h30, eh ben, j'ai l'impression qu'on parle énormément de ces sujets, alors qu'une fois encore, on n'est pas dans des. Il n'y a pas du tout de notion d'argent, il n'y a pas de tout ça. Donc moi, j'ai tendance à penser que ces débats, ces discussions qu'on a là, sont pas des discussions de classe parce qu'elles intéressent de plus en plus de gens. En revanche, ce que je pense, c'est que c'est générationnel. C'est vachement générationnel. C'est-à-dire que dans mon groupe de copains, on a entre 32 et 38 ans à peu près tous, et ça nous intéresse tous. Alors qu'on fait une fois encore des métiers qui sont différents, on a des parcours différents et on vient de familles qui sont différentes. En revanche, c'est générationnel parce que toi aussi, tu dois faire des fois des. Tu te retrouves à un dîner, un truc où la moyenne d'âge elle est de 60 ans, et bah c'est sûr que tu entends moins parler de ça. C'est comme ça. Après, est-ce que ça sous-entendrait que c'est un débat qui est réservé à une forme d'élite? Ça, tu vois, je crois pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense qu'il y a des très bons parents qui sont des classes, des CSP, les qui sont les plus dans le dur, tout comme il y a de très mauvais parents à l'inverse. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai
Non
tendance
mais
à croire ça.
complètement. Non
Et
mais
le retour que j'ai des maternelles, tu vois, je reçois évidemment, comme tu t'en doutes, plein de messages après chaque émission, etc. Où clairement, tu vois qu'il y a tous les profils. Et les gens, comme ils commencent souvent par se présenter un petit peu en disant bonjour, je m'appelle Machine et je fais tel métier, j'habite à tel endroit. On n'est pas dans les trois arrondissements bobo de Paris ou alors que chez les gens qui sont blindés, bien au contraire, bien au contraire.
Non, mais tout à fait. Mais c'est vrai, alors moi je te rejoins à 1000%, parce que c'est vrai qu'il y a ce qu'on peut voir, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux, quoi, et puis comme tu le soulignes très, très justement, il y a la vraie vie, tu vois. Enfin, moi que ce soit
Pour
avec
ça que
mes
les réseaux
voisins.
sociaux, c'est ce que je t'ai déjà dit avant.
Ouais.
Et d'ailleurs, comme j'écoute souvent ton podcast, et je me demande, c'est pas une critique, c'est une question, si tu donnes pas trop d'importance à ce que tu vois sur les réseaux. Parce que les réseaux éloignent de la vraie vie. Et souvent, tu cites les réseaux. Donc, tu vas avoir quatre influenceurs, influenceuses qui disent des trucs bien ou pas. Est-ce que tu ne crois pas que tu donnes parfois trop d'importance à ça par rapport à la vraie vie et aux vrais gens, tu vois, qui sont.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Moi, je pense que si, et de toute façon, pour tout te dire, c'est quelque chose dont je me détache
Ouais.
et qui sera sûrement le thème de la saison 4.
Excellent.
C'est d'aller justement chercher ça. Après, alors pour le coup, j'ouvre un peu une idée de stratégie de papatriarcat, mais
Vas-y,
après,
allons-y.
non, mais après, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, les gens qui poussent le plus le sujet sont aussi ceux qui regardent ce qui se passe sur les réseaux, tu vois. Et ensuite, il y a, comme tu dis, la vraie vie, mais il y a pour le coup, donc, comme je disais, il y a les parents qu'on voit pas et qu'on n'entend pas, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias. Je pense moi au daron, tu vois, qui fait des chantiers de 8h à 20h et qui est quand même là investi avec ses enfants du mieux qu'il peut. Et pour discuter avec des gens comme ça, que ce soit dans mon cercle d'amis, ou même parce que il y a eu des travaux chez moi il n'y a pas longtemps, et à la pause déj, moi j'aime bien bouffer avec les gens qui viennent faire des travaux chez moi, on discute, et c'est passionnant de parler de parentalité avec tout le monde en fait, et ça ouvre beaucoup de perspectives. Mais il n'y a pas que ça, je trouve que sur les réseaux, pareil, on ne voit pas ce qui se passe en PMI, on ne voit pas ce qui se passe en CMP, on ne voit pas les, non plus forcément les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants qui sont eux aussi dans le dur, que ce soit financièrement ou sur le terrain. Et ça manque un peu de sujets comme ça, mais en effet, je pense qu'il faut ouvrir ça. Et en même temps, il y a quand même des gros enjeux qui se passent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de médias ou de maisons d'édition qui vont chercher des gens sur les réseaux sociaux leur donnent une autre visibilité. J'en suis le produit. Mon livre, moi, clairement, j'aurais Papa Patriarcat à mon compte Instagram, il n'y aurait pas de livre « Je vais être papa », tu vas être papa. Il n'y aurait pas... Enfin, je peux t'en citer d'autres. Hein. On peut parler d'Imena Weisman. Est-ce qu'elle aurait été publiée par Marabout si elle n'avait pas eu cette visibilité sur les réseaux sociaux avec le hashtag qu'elle a monté ? Il y en a d'autres. Hein.
Bien sûr. Tu vois ? Mais t'as des éditeurs qui se sont spécialisés un peu là-dedans.
Bien sûr.
Et alors, ça donne de bonnes surprises. Bah, surprise, c'est pas le mot, mais ça donne de bons résultats parce que t'as, heureusement, évidemment, t'as quand même des gens qui sont suivis par la qualité de leur travail, par leur investissement, ce qui est vraiment ton cas. Tu vois, ton podcast, il est de qualité. On n'est pas sur une daube qui marche parce que t'as fait un buzz. Tu vois, on est sur
Je n'ai pas payé Benjamin pour dire
non, mais on est sur du travail de fond et tout. Mais à l'inverse, et tu vois, nous, au maternel, on reçoit tous les livres. Typiquement, tous les livres. Non, mais tu vois, je vais donner aucun nom, mais je suis affligé de trucs où tu dis, mais il y a des gens qui sont édités, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est enfin, qui va acheter ça par une petite notoriété ? Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ça, les choses évoluent. Mais à l'inverse, bon, les réseaux sociaux ont aussi ce bon côté quand même de mettre en avant, je trouve, des personnes qui sont bien, qu'on n'aurait pas connues il y a 15 ans quand il n'y avait pas les réseaux sociaux.
C'est ça. Et puis ça permet, je trouve, tu vois, aussi d'observer des choses et de trouver des concepts. Tu vois, je parle par exemple du dad blessing, donc dont on a parlé sur les réseaux, dont je parle dans mon livre, ce qui est le fait de faire une espèce de sacralisation des pères. Ça, c'est quand même aussi un vrai sujet, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'aurais pas les réseaux sociaux, mais on ne les verrait pas, les darons qui se prennent en photo pour aller chercher le gamin à la crèche, alors qu'on ne voit aucune mère faire ça. On ne verrait pas des centaines de commentaires de femmes applaudir un homme parce qu'il porte son bébé. Quand une mère, elle, poste en train de porter son enfant, elle ne va pas voir les mêmes commentaires dessous. Tu vois, on ne va pas dire « Oh, c'est beau, une mère qui porte », on va dire... Enfin, il va y avoir des commentaires comme ça, mais il va aussi y avoir un autre commentaire. « Ah, si c'est du portage, est-ce que le nœud est bien fait ? Si c'est un porte-bébé, est-ce que c'est quelle marque ? Est-ce qu'il est vraiment physiologique ?» Les pères, on n'a pas ça, ou en tout cas dans une bien moindre mesure, si tu veux. Et c'est vrai que les réseaux, ça permet d'observer aussi ces comportements-là. Aussi parce que les réseaux, ce n'est pas la vraie vie, et que sur les réseaux, les gens s'expriment tels qu'ils ne le feraient pas dans la vraie vie.
Moi, je vais te dire un truc, faudrait pas que je le dise, mais je les lis pas, les commentaires. Je les lis pas quand je mets un truc ou quoi. Quand je mets une connerie ou tu vois un truc pour rigoler, oui, mais si je vais mettre un passage de l'émission un peu sur un sujet sensible. Parce que, en fait, j'ai pas envie de croire que parce que six personnes vont me dire t'es un connard de dire ça, je suis un connard. Tu vois, j'ai pas envie que ça m'influence trop. Et donc, je me mets à la place. T'as déjà je pense à des femmes qui ont mis des photos d'elles qui allaitaient au milieu d'autres photos où elles sont en vacances, elles sont avec leurs copains, elles font ce qu'elles veulent, tu vois. Une photo qui allaite ou qui allaite pas, justement, qui donne un biberon sur des marches d'escalier et tout. Et elles se retrouvent, t'as cinq, qui commencent à leur dire, mais tu vois, tu allaites pas, c'est un danger pour toi. Et donc, tu te mets à la place de cette femme qui est chez elle, tu vois, qui est tranquille, qui avait rien demandé, qui se retrouve à se faire insulter par 5 ou 10 personnes et qui se dit, mais je fais mal, donc je suis une mauvaise mère. T'imagines le truc comme ça peut t'entrer dans ta tête alors que dans la vie, tu donnes un biberon sur des marches, aucune femme va venir dire « Excusez-moi, pourquoi vous n'allaitez pas ?» C'est quand ils pensent, c'est quand même un truc de ouf. Donc les réseaux sociaux, moi j'ai téléchargé, je t'en ai déjà parlé, je crois, l'application Bodyguard, j'incite tout le monde à le faire. Déjà, ça t'enlève toutes les insultes, toutes les menaces. Donc déjà, au moins, ça part. Et surtout, je dis aux gens qui nous écoutent, donnez pas trop d'importance aux commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que c'est des gens qui n'oseraient pas vous les dire en vrai. Demain, ils auront pensé à autre chose. Puis ça se trouve, ils vous commentent juste parce qu'ils sont jaloux de vous, ils ont envie de vous critiquer au truc. Mais si vous aviez fait l'inverse, ils auraient dit l'inverse. Donc, réseaux sociaux, pour... tu as pu comprendre, Cédric, que moi, les réseaux sociaux, j'essaie de me détacher vachement. Enfin, ça a des bons côtés, mais ça a quand même beaucoup de mauvais.
Alors, je vais avoir une dernière question qui est un peu en lien, et puis après, on va arrêter sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais juste souligner à quel point je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que souvent, moi, si tu veux, on me dit que sur les RS, tu sais, je partage pas les messages négatifs que je reçois. Je le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas envie de donner de la visibilité aux gens qui viennent me faire chier. Premier point. Et deuxièmement, en fait, j'essaie, comme tu le dis, de toujours relativiser. C'est-à-dire que pour une personne qui vient me dire un truc pas sympa, j'en ai 50, 100, 200 qui viennent me dire que c'est cool, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul là-dessus et voir la situation globale, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, moi, j'ai des amis qui ont des centaines de milliers d'abonnés, et parfois, pour un message pas cool, ils vont péter un câble. Mais alors que derrière, t'as 500 000 messages de... C'est génial, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, on manque de... Enfin, je trouve que l'ego est tellement mis en avant sur les réseaux sociaux que ça le fragilise, en fait, tu vois. C'est-à-dire la moindre petite pique...
Ouais.
Tu vois, ça devient...
Ça, je pense qu'en revanche, c'est pas nouveau, parce que je pense que les journalistes, par exemple, il y a 20 ans, qui recevaient masse de courriers tous les jours, dès qu'ils animaient une émission populaire, j'en sais rien, moi, je me mets à la place de... du temps de nulle part ailleurs, par exemple, j'imagine que tu devais recevoir des courriers tous les jours pour dire ça c'était bien, c'était bien, c'était bien, et de temps en temps tu devais avoir un type pour dire ouais, c'est vraiment pas drôle, c'est de la merde. Et j'imagine qu'en fonction de toi, tu dis ton ego, mais aussi ta gestion des critiques et tout, j'imagine qu'il y en a que ça mettait à plat d'avoir une lettre disant que t'es une merde au milieu de 25 000 qui disait que t'es super. Donc.
Mais j'avoue que tu vois, ça serait en fait dans la lettre. C'est vrai que j'avoue que moi, il y a quand même la démarche de prendre du papier, un stylo et d'écrire le truc en entier.
Et tu vas à la poste. Tu vas à la poste.
Voilà. Tu vois, les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est facile, tu vois. J'avoue que si demain je recevais un courrier de quelqu'un qui me dit tout le mal qu'il peut penser de moi, je me dirais quand même. Hein,
tu respectes la démarche, quoi.
Il y a une passion. Il y a une passion derrière. Et justement, je voulais te demander. Tu vois, on se parle de changement de paradigme éducatif et tout, mais sur ce sujet, un petit peu encore de la visibilité des rôles modèles qu'on peut avoir. Il y a aussi quelque chose qui est très à la mode chez certains rôles modèles, c'est de saluer à quel point les mères sont des wonder mamans qui font tout, qui machin, qui sont incroyables parce qu'elles allaitent, elles se lèvent à je sais pas quelle heure, elles font le ménage, elles font ci. Et pareil, des communications sur lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de waouh, c'est génial. Mais est-ce que finalement, selon toi, on ne serait pas en train de renforcer le modèle de la mère qui se sacrifie et du père qui est là, qui fait waouh, qu'est-ce qu'elle est forte, ma femme. Allez-moi, salut, je vais au sport.
Non, mais si t'as sans doute raison. Alors, je pense quand même que bien souvent, ça part de bonnes intentions.
Tout à fait.
Tu vois, par principe, moi, les bonnes intentions, tu vois, je suis plutôt pour et tout, mais c'est toujours pareil. On sort des réseaux sociaux. Je suis l'été avec mes copains à table et j'ai un de mes copains qui va me dire, tu vois, ma femme, elle est incroyable parce qu'elle a repris le boulot, elle assure, en plus, elle fait de la musique, elle a l'orchestre et machin, et avec les enfants, elle assure trop. Enfin, tu vois, moi, c'est mon pote qui dit, tu vois, moi, elle m'impressionne, elle est vraiment forte et tout. Bah, je vais pas lui dire, eh, attends, mon gars, tu serais pas en train de contribuer, tu vois, je lui dirais, bah, t'as raison, c'est une bête, tu vois, elle est trop forte. Donc, si c'était dans la vraie vie, ce message-là, il est sain. Et effectivement, les réseaux sociaux donnent des tournures différentes. Moi, je suis quand même d'accord avec toi. Par exemple, tous les jours, tous les 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'ai un peu du mal, tu vois, avec les... Il y a des gens qui en font trop, je ne sais pas, c'est maladroit. Mais je ne saurais pas exactement dire quoi. Moi, je trouve que souligner à quel point les femmes sont fortes de concilier vie privée, vie perso, il y a un petit truc qui me dérange, ça sous-entend, alors que nous, on n'y arrive pas, donc on se concentre sur la vie pro, et puis la vie perso, on laisse ça. Alors que, bah, mon gars, si tu essayes, tu y arriveras. Et puis, il n'y a pas de pouvoir surhumain, il n'y a pas d'instinct maternel qui fait que les femmes sont plus fortes que les hommes pour gérer les deux. Il n'y a rien de tout ça. Donc, ça me dérange un peu. Mais comme il y a quand même de la bonne intention là-dedans, tu vois, je suis un peu mesuré dans ma critique du phénomène, on va dire.
Non, mais tout à fait. Mais en fait, c'est, pour finir sur le sujet, moi, j'aime bien comment t'évoques le truc, parce que finalement, tu viens d'exposer le fait que nous, les mecs, quelque part, que ce soit socialement, individuellement, ou ce qu'on veut, mais on fait le choix de s'investir ou pas. Tu vois ? Choix que, visiblement, les mères ont pas ou très peu. Et c'est intéressant de voir cet aspect-là aussi. Bon, sortons des réseaux, parce que... voilà.
Alors, la question du choix, elle est intéressante. C'est comme la question, on a déjà peut-être parlé, du... quand une femme va te dire « Ah, j'ai de la chance parce que le papa m'aide beaucoup. » Et sur cette sémantique de « s'il t'aide », ça veut dire que ça reste toi la référente et lui, c'est ton adjoint, c'est ton numéro 2. Oui. Alors que, bon, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que les deux parents, enfin, c'est valable aussi sur les couples homo, hein, évidemment, il faut être sur le même pied d'égalité, il ne faut pas qu'il y en ait un qui aide l'autre ou qu'il y en ait un qui supervise le travail de l'autre. Dans l'idéal, il faut être tous les deux être main dans la main.
Ouais. Après, moi, c'est toujours pareil, tu vois, comme tu aimes la nuance, moi, c'est quelque chose que je nuance toujours en disant ça ne me dérange pas qu'un des parents soit référent sur un sujet.
Bien sûr, ouais. Évidemment.
Tu vois, moi, par exemple, ma fille est en instruction en famille, je suis le parent, c'est moi qui passe le plus de temps avec elle, je suis le parent référent sur la gestion de l'emploi du temps et des activités. Mmh. Tu vois, par contre...
Non, mais très bien si ça vous va en tant que couple. Et si ta femme, par exemple, aime bien faire à manger, j'en sais rien, c'est peut-être pas le cas. Ou qu'elle aime particulièrement aller à la piscine avec elle, ou tant mieux si c'est elle qui fait à manger, ou la piscine, ou voilà.
Et oui, et pour autant, si tu veux, ma compagne qui, elle, par ailleurs, est professionnelle de santé, elle, c'est vrai que, tu vois, elle me l'a rappelé pas plus tard qu'hier soir, elle m'a dit, tiens, je crois qu'il y avait un rendez-vous de pédiatre qui traînait pour un vaccin, est-ce que t'as pu le prendre ou pas ? Tu vois, finalement, c'est aussi elle qui est la référente de ce suivi-là. Et en fait, on peut très bien être référent de sa petite zone de compétence, quoi. Le problème, c'est quand toute la charge éducative repose sur une personne, c'est chaud. Et justement, j'ai une question, alors là, presque philosophique et idéologique à te poser.
Oula.
C'est dans quelle mesure tu penses que le changement de paradigme éducatif, tu vois, de ce changement de rapport de domination adulte-enfant, permet de repenser et de modifier justement la situation sur la domination patriarcale ?
Attends, mais c'est une question qui mérite la raison. Non, c'est la bonne question, en fait, que j'attends depuis le début du podcast, que je redoute. Je dirais que c'est un ensemble. En fait, moi, j'imagine que les hommes qui sont sur ce chemin dont on parle, c'est-à-dire ce chemin de la coparentalité, l'éducation main dans la main et pas horizontale, et pas vertical, pardon. Et j'imagine que c'est associé quand même à cette fin du patriarcat ou en tout cas du domaine masculin. Donc j'ai tendance à penser qu'il n'y en a pas forcément un qui va entraîner l'autre, mais que les deux vont de pair. Mmh. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça s'appuie sur aucune étude sociologique ou quoi. C'est toujours pareil, c'est un ressenti. Mais j'ai par exemple l'impression que autour de moi ou dans la réflexion ou quand je vais lire des gens qui réfléchissent, ils vont mettre ça dans un tout, c'est-à-dire l'homme s'occupe des enfants, élève ses enfants, fait l'éducation, fait les devoirs, enfin, tu vois, on englobe tout ça. Dans un même temps, ça va avec de prendre sa part des tâches ménagères et de faire la même part que sa conjointe, sa femme, tout ce que tu veux. Après, je suis peut-être pas assez radical sur ce sujet, tu vas me dire ce que t'en penses, toi qui n'es pas patriarcat. mais c'est pareil, je pense que les deux vont plutôt l'évolution, c'est plus main dans la main que l'un qui entraîne l'autre.
Alors moi je suis totalement convaincu du sujet. Alors t'es parti sur le parallèle avec la parité, ce qui est, soit dit en passant, un excellent parallèle, mais on terminera là-dessus justement, je pense, sur les leviers pratiques. Moi je vais juste revenir sur une notion qui est celle des violences, en fait. C'est que à partir du moment où on considère qu'un enfant mérite, il a bien cherché celle-là, tu vois, quand même, la gifle qu'il vient prendre, il a bien cherché celle-là, on induit le raisonnement suivant, c'est qu'une victime peut être responsable de la violence qu'elle subit. Mmh. Or, aujourd'hui, un des grands combats féministes de notre temps, notamment porté par l'association Nous Toutes, c'est de faire reconnaître que la victime n'est jamais responsable de la violence qu'elle subit. Sauf qu'en fait, puisqu'on est induit là-dessus par rapport à l'éducation violente, punitive, tout ce qu'on veut, c'est encore une fois un chemin à modifier. Et pour le coup, quand on commence par ne pas être violent dans l'enfance, ben ça fait un chemin de moins à modifier.
Exactement.
Tout simplement.
Et t'as raison. Et tu sais, quand tu dis « il l'a bien cherché celui-là », je pense entendre plus, plutôt que « il l'a bien cherché celui-là », j'ai l'impression quand même ça, on s'en éloigne. Il y a plutôt le côté « ouais, il m'a fait péter les plombs ».
Ouais.
Et du coup, c'est peut-être important de dire aussi aux gens, pour moi, c'est facile de ne pas donner de fessée ou de claque à mes enfants, vu que je n'ai pas été élevé là-dedans, t'as bien compris, donc c'est pas dans mon logiciel. Mais je ne dis pas que si j'étais à ta place, c'est-à-dire si j'avais connu ça petit, si ça se trouve, je reproduirais ça. On ne peut pas savoir, tu vois, on reproduit tous des trucs de notre enfance. Mais en revanche, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui à un moment, des moments, vont craquer, vont avoir la main qui part, tu vois, la petite fessée. Je te parle pas du truc où les parents vont dérouiller leur enfant. Je te parle de la fessée, du geste, la petite tape sur la main, le truc, où le parent va culpabiliser. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est quand même fréquent. Je pense majoritaire même, tu vois. Il faudrait voir les chiffres exacts. Mais je pense qu'il y a quand même plein de parents qui, de temps en temps, font le petit geste et après regrettent. Là, à mon avis, il faut pas hésiter à aller voir son enfant et lui dire excuse-moi, j'ai déconné. Tout le monde en sort grandi. Déjà parce que soi-même, on culpabilisera moins et tout. Et aussi parce que ça montre à l'enfant que c'est pas un comportement normal que d'être violent. Et que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. On lui montre, j'ai merdé parce que je suis pas infaillible. En revanche, ce que j'ai fait, il ne faut pas le faire. Et donc, tu ne renvoies pas l'idée à ton enfant. Toi-même, si un petit tes petits copains t'en mettent à l'école, colle-lui-en une et ça règle le problème. C'est important.
Oui, et puis,
Voilà.
alors, moi, je te remercie de soulever ce point parce que j'échange avec beaucoup de parents, peut-être que toi aussi, je pense que oui, mais sur le fait que, voilà, j'ai craqué, j'ai crié, j'ai mis une tape, voire même j'ai mis une gifle ou une fessée, voilà, je suis un parent de merde. Non.
Non.
Et déjà, le simple fait de se poser la question, j'ai envie de vous dire, c'est tellement un bond en avant par rapport à la fin du XXe siècle sur les méthodes éducatives que, mais soyons fiers. Sont fiers de simplement de se poser la question. Et je pense que, comme tu le dis très justement, hein, nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Donc, quand ils nous voient nous excuser, et je précise aussi, quand ils nous voient céder, ils apprennent à s'excuser. Et aussi, quand nous, on cède, on apprend à nos enfants qu'on peut céder. Je place ça tranquillement en pensant à André Stern, qui en parle bien lui-même, c'est que on transmet ça à nos enfants. Et c'est vrai que moi, je suis tout à fait contre, et j'ai aucun problème à le dire, contre ces méthodes qui consistent à aller flageller les parents, à leur dire à quel point ce sont des grosses merdes. Et je vais même soulever à quel point c'est une dichotomie totalement impensable, finalement, quand on prend le sujet, c'est que on dit à des parents, on dit violemment à des parents de ne pas être violents.
Ouais, t'as raison.
Ça n'a aucun sens.
Ouais.
Ça n'a aucun sens. Tu vois? Et je pense que faire ça, c'est pas, quelque part ne pas avoir compris le concept de la violence éducative. Voilà.
T'as raison, et une fois encore, le conseil qu'on peut donner, c'est aussi, voilà, à qui il faut parler de ça. C'est-à-dire si on
Oui.
craque, si soi-même. N'allez pas dire, n'allez pas mettre un post sur Instagram en disant, oh là
Non.
là, hier, j'ai mis une fessée à mon enfant, vous en pensez quoi? Parce que là, bon. En revanche, tu vois, tu parlais des PMI tout à l'heure, je te l'ai dit, ma mère qui bosse en PMI, ou les médecins, mon père donc qui est médecin, je pense qu'il y a quand même énormément de gens, à mon avis, tu vois, je ne sais pas exactement comment mon père pratique, mais si un père vient en lui disant, putain, hier, j'ai mis une fessée à mon fils, je m'en veux, je pense que mon père lui dira, oh là là, vous êtes une merde, tu vois, pas du tout. Je pense qu'il va, je suis même sûr, lui, et donc tous les médecins, les pédiatres, vont avoir des discussions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce que vous regrettez, comment vous pouvez changer les choses. Je suis persuadé qu'il y a énormément de gens bienveillants pour accompagner les parents. Ce n'est pas forcément dans l'entourage proche. La meilleure idée, ce n'est pas toujours d'appeler la meilleure copine ou le meilleur copain pour lui demander des conseils parce que les
Y a un
choses font
affect.
que c'est. Ouais, il y a un affect, ce n'est pas toujours aussi simple. Par moments, il y a de la jalousie en plus, il y a de la comparaison, de la compétition. Donc mais en revanche, moi, j'ai toujours trouvé, quand moi j'avais des questions, je me posais des questions, tu trouves des référents qui peuvent vraiment bien t'accompagner avec une phrase ou deux de bienveillance. Et donc, cherchez les gens bienveillants autour de vous qui vont vous accompagner et cherchez les podcasts comme le tien bienveillant qui vont vous dire que vous n'êtes pas un mauvais parent. Vous êtes un parent en
Mais
quête de perfection, mais la perfection n'existe pas.
en quête d'idéal, ouais.
Quête d'idéal.
Mais et je précise par ailleurs que, et là c'est un petit peu le thérapeute qui parle, c'est qu'une personne qui vient vous voir en vous disant, tiens, j'ai mis une fessée à mon enfant, ça me fait chier, il n'attend pas que, alors potentiellement dans sa construction peut-être qu'il va être content d'être puni, j'en sais rien, mais en tout cas il faut vraiment voir ça comme aide-moi quoi. C'est j'ai besoin de t'en parler, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Donc pour le coup, le plomber, ça va juste rien amener de constructif. On s'est
Je suis
parlé de beaucoup
d'accord.
de sujets théoriques avec quelques petits conseils quand même parsemés à droite à gauche. Mais là, dans le concret, si tu veux, au niveau de la paternité, parce que c'est quand même un sujet qui revient beaucoup dans le sujet de l'égalité homme-femme, à ton avis, c'est quoi les leviers, alors que ce soit au niveau individuel ou collectif, peut-être qu'on va commencer par le collectif, pour faire avancer le sujet?
Moi, je pense que ça passe par le travail. Je pense que quand on atteindra la parité au travail, je pense que quand les hommes et les femmes auront le même salaire, quand il n'y aura pas de discrimination à l'embauche parce qu'une femme a 28 ans et tu dis que dans pas trop longtemps, elle va partir en congé mat, donc fais chier, elle part pendant 4 mois, donc c'est trop long. Mais à l'inverse, quand les mecs de 28 ans partiront aussi 4 mois en congé mat, eh ben, il n'y aura plus ces discriminations-là. Je pense que quand la parité sera totale au travail, il n'y aura plus aucune justification. si ce sont des justifications que je ne justifie pas, mais je veux dire, tu entendras beaucoup moins de messages qui justifient le fait que ça reste les femmes qui s'occupent de l'éducation des enfants et des tâches ménagères. Donc moi, si tu vois, il y a un truc collectif, c'est ça. Et je suis très étonné. Alors au moment où on enregistre ça, on est en pleine campagne présidentielle, mais après campagne législative, c'est pareil. À quel point c'est absent des débats.
Et oui.
Mais c'est complètement absent des débats et des programmes. Et donc oui, les 8 mars, t'as des grandes envolées lyriques. Alors que franchement, ça intéresse tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et même si tu te dis, je sais pas, t'as des enfants qui sont grands, qui ont 25 ans aujourd'hui et que c'est plus vraiment tes sujets, bah tes enfants vont devenir eux-mêmes parents et donc du coup ils vont être concernés autrement. Et tu vois, ça m'éblouit qu'on en parle si peu. Je fais pas le donneur de leçons du tout en disant ça, hein. Mais c'est un peu comme l'écologie, si tu veux. L'écologie, on en parle un peu plus, mais tu dis quand même un autre sujet qui concerne tout le monde, qui est quand même peu à la une de l'actualité. Et ça, les questions de parité, d'égalité homme-femme, tout, c'est incroyable.
L'écologie représente 5% de temps de parole, hein, au moment où on enregistre.
C'est 5%. Ah, bien, je pensais que c'était plus. Bah, tu vois, alors que c'est la préoccupation numéro 2, je crois, après le pouvoir d'achat.
C'est donc ça. Ça dépend des générations après. Chez les jeunes, c'est la première. Ouais. Chez les plus jeunes, c'est la première. Mais oui, c'est un gros sujet. Bon, donc, je me permets d'en conclure que toi, le congé paternité à un mois, tu te dis qu'il faut aller quand même plus loin, quoi, bien plus loin.
Je pense qu'il y a des modèles comme les modèles des pays nordiques, forcément, vers quoi on devrait tendre. Et je trouve que des congés parentaux, par exemple de 6 mois ou que tu partages en 2 fois 3 mois, c'est l'idéal. Je pense que c'est bien si le père a aussi une part de congé sans la mère. Mère reprend le boulot et le père. Comme ça, le père devient lui-même référent d'une certaine manière. Mm-hmm. Évidemment, ça, le congé parental doit commencer. C'est la mère qui le prend le premier, puisque ne serait-ce qu'elle doit se remettre physiquement de ce qu'elle vient de vivre. Donc moi, si demain je suis ministre du moment préserve la santé, etc., je réfléchirai à un truc comme ça où tu as effectivement une période, par exemple, d'un mois où les deux sont là. Ensuite, le père reprend le boulot et au bout de 3 mois ou 2 mois ou autre. Il sera à lui de poser de moi et d'être avec son enfant. Et le jour où on atteindra ça, on sera bien. On sera déjà très bien. Et là, je pourrais démissionner de mon poste de ministre et dire bon, j'ai réussi, je pars vivre sur une île et tiens, autobus.
J'ai fait le job. Alors, c'est vrai que, tu vois, sur ce sujet, il y a quand même un vrai rôle des entreprises. À ton avis, il y a aussi quand même, alors je pense qu'on va être d'accord, mais il y a quand même sûrement une sensibilisation à faire auprès des ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, tu vois, le congé paternité dans certaines entreprises, c'est encore un peu, même à un mois, tu vois, c'est encore un peu le truc, on te dit, ouais, enfin, tu le prends, mais t'es mignon. Enfin, moi, il n'y a pas longtemps, je discutais avec un papa à qui on a dit très clairement, qui a pris son congé paternité, d'ailleurs, je te salue, quel courage, mais à qui son patron a dit très clairement, non, c'est 7 jours obligatoires, si tu me fais chier à en prendre plus, ça va mal se passer.
Ouais.
Et ça, c'est un gros sujet aussi quand même.
Bon, après, t'as des merdes hein, encore, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire,
oui,
un patron qui va dire ça à son salarié, tu vois, ça veut dire que c'est une raclure. C'est pas qu'une histoire d'égalité homme-femme. Excuse-moi pour la finesse de mes propos, mais...
Non, mais ça va, c'est OK.
Et j'ai discuté avec une copine qui vient de partir en burn-out. Rien à voir avec ses enfants, truc au travail, tu vois, le truc costaud, tu bosses 15 heures par jour, le télétravail, la flingue et tout. Et son premier jour de burn-out, appel de sa DRH qui lui dit « Bon, OK, ton histoire de burn-out, qui gère tes dossiers, il faut qu'on prenne une après-midi pour caler tes dossiers et tout. » Et là, ma copine lui dit « Non, attends, je suis en burn-out. »« Oui, t'es en burn-out, d'accord. Enfin bon, tu vas pas nous laisser. » Donc, tu vois, il faut aussi accepter l'idée que dans le monde de l'entreprise, il y a aussi des gens qui, bon, ont peu d'empathie, on va dire, pour le dire autrement, que ce sont des grosses merdes. Et t'as raison aussi sur les hommes qui osent pas forcément prendre le congé pat. En fait, un de mes très bons copains qui vient d'avoir un bébé, et lui au début il m'a dit je vais prendre que 7 jours parce que c'est trop mal vu dans ma boîte. Et pourtant, et je dis mais attends, mais tu t'en fous ? Enfin, tu t'en fous ? Il me dit oui, sur le principe je m'en fous. Mais quand dans les faits, on en revient, hein, quand dans les faits, c'est lui qui a le gros salaire du couple. Bah, tu vois, là on est dans le cliché, mais c'est lui qui a le gros salaire du couple. Elle a un travail très précaire où d'un mois à l'autre elle peut rien gagner, etc. Ou dans son boulot ça embauche peu, il habite dans une région où le taux de chômage est plus important qu'ailleurs, et qu'est-ce que tu fais? Et il me dit mais qu'est-ce que je fais? Et donc moi là je suis là à vouloir donner des leçons et tout, et je dis ouais, en fait je te comprends, si c'est très mal vu je comprends que tu retournes bosser au bout de 8 jours parce que t'as pas envie de d'un coup être ostracisé, placardisé, et... donc ouais, il y a un boulot massif, mais j'ai quand même l'impression que la nouvelle génération de chef d'entreprise est plus sensibilisé que celle d'avant.
Oui, tout à fait. Puis après, de toute façon, quand tu seras ministre de la Santé, la période obligatoire, elle sera beaucoup plus grande. Donc,
en plus, obligatoire, je ne suis pas sûr que ça passe par l'obligation. Mais on en reparlera quand je serai ministre. Voilà. Donc, affiner, ma proposition n'est pas encore aboutie.
Et sur le plan individuel, parce que, sans donner de leçons, bien sûr, attention, là, quand on parle du plan individuel, je vais juste préciser, que ce soit Benjamin ou moi, on ne va pas dire ce qu'il faut faire, ce qui fera de vous un bon père ou un mauvais père.
J'en aurais bien du mal, de toute façon.
Mais quelle piste on peut quand même essayer de donner, si tu veux, pour essayer d'avancer sur le plan individuel, pour que chacun puisse dire, OK, la société me dit peut-être que ce n'est pas ma place, mais moi, j'ai envie de prendre cette place. Quoi.
Ouais. Par exemple, pour la charge mentale, je pense que la charge mentale est un sujet qui agrège un peu tous les autres. Je trouve que c'est vachement bien dans un couple et c'est quelque chose de marrant à faire, même si t'as l'impression d'être irréprochable. C'est que tu prends un jour avec ta femme, avec ton mari, peu importe, une feuille et tu vas lister, tu fais charge mentale 2 points, voilà ce que j'ai moi, voilà ce que t'as toi. Et tu fais un petit, et c'est vraiment, j'incite tout le monde à le faire, et tu fais une petite mise au point de qui a quoi. Et si vous êtes dans la parité, bah écoutez, c'est bien. Si vous êtes comme, je pense, tout le monde, vous remarquerez qu'il y a quand même. Que ça penche quand même d'un côté ou d'un autre. Et se mettre cette réalité-là de notre propre couple devant les yeux, je pense que c'est un bon moyen ensuite de dire « Ok, d'accord, donc il y a un déséquilibre. C'est toi, Cédric, qui te tape tous les devoirs et qui te tape je sais pas quoi. Moi, en revanche, j'emmène ma fille faire les courses pendant que toi, t'enregistres tes podcasts. Non, mais au-delà de la blague. Et c'est pas mal de faire « Ok, donc j'ai compris que t'en faisais vachement plus que moi. Je vais prendre ça et ça. » Et ça, dorénavant, c'est moi qui gère. Les rendez-vous chez le pédiatre et je sais pas quoi. Et tu vois, c'est des petites gouttes qui font ramener vers un équilibre qui est salutaire.
Et puis, de toute façon, je pense que ça fait jamais de mal dans toute équipe, que ce soit professionnel, couple, de poser les choses de comment est-ce qu'on fonctionne, tu vois. Je pense que c'est quelque chose de très sain.
Et peut-être le deuxième conseil, qui est un conseil qu'on peut oublier quand on vient de devenir parent, c'est essayer de garder du temps de couple dans la mesure du possible. Faites garder votre enfant assez vite. Pas quand votre bébé a 3 semaines, mais quand même au bout de quelques mois, quand il va bien, etc., prenez le nounou, les grands-parents, n'importe qui, gardez-vous du temps de couple pour faire des petites mises au point, essayez de demander à l'autre comment il va, essayez de demander à l'autre ce qui peut l'angoisser, ce qui peut... Franchement, mon conseil, il est naze, hein, tu vois, j'ai conscience, mais en fait, il y a trop de gens qui s'interdisent ça avant les 2 ou 3 ans de l'enfant, et ton couple n'est plus un couple, t'es plus que des parents, je te parle même pas de sexualité, je te parle juste de relations un peu d'intimité et tout, et ça fait tellement de bien, ça recharge tellement les batteries, il suffit de... Franchement, tu commences par un dîner par mois ou une sortie par mois en couple et c'est indispensable, indispensable.
Je ne peux que te rejoindre. C'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps à faire, beaucoup, beaucoup de temps à faire
et
chez nous.
Et tu culpabilises au début, tu culpabilises de sortir. Et...
Alors en fait, moi pas, mais voilà. mais c'était plus compliqué pour ma compagne, mais c'est vrai que ça fait du bien. Quoi. Moi, je vais rajouter un dernier petit conseil qui va un petit peu rejoindre celui de l'entreprise, c'est... dans la mesure du possible, alors que ce soit vous personnellement ou par vos syndicats ou quoi, essayez de prendre connaissance de vos droits et de vos devoirs, notamment sur le sujet de la parentalité, que ce soit pour connaître vos jours enfants malades, comment les poser, mais aussi avant la naissance, sachez que les pères, je le dis, je le rappelle à chaque fois, 3 rendez-vous, 3 absences autorisées, rémunérées, qui sont souvent utilisées pour les 3 grandes échographies. Voilà. Vous y avez droit, vous pouvez vous absenter quand vous le souhaitez. C'est autorisé et rémunéré. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on oublie assez souvent. Et pour finir, moi je voudrais vous parler devant Benjamin Muller, du travail de Benjamin Muller. parce que Benjamin Muller a aussi d'autres podcasts, notamment un que moi j'utilise régulièrement, qui s'appelle Encore une histoire. Et moi ça me touche particulièrement parce que vous mettez une grande diversité dans les sujets, dans les modèles que vous présentez. Moi, ma fille adore écouter l'épisode de Frida Kahlo. Elle adore. Et étant une petite fille métisse, pour moi, c'est important qu'elle ait des représentations comme ça. Donc déjà, bravo. Et vous portez de belles valeurs sur ce projet-là. Mais c'est pas tout. Je crois qu'il y a du livre. Alors, tu sors régulièrement des livres. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'histoire de Paul.
Le
palais de Paul, donc fils du président.
Voilà.
Et je crois qu'il y a autre chose qui arrive bientôt.
Bah en fait, encore une histoire, c'est comme ça marche bien en podcast, toutes les histoires qu'on a écrites nous-mêmes, bah forcément on commence à les sortir en livre parce que du coup c'est un aboutissement. Et c'est marrant que tu me parles, tu sais, de la diversité pour les enfants mixtes et tout, parce que à la base on l'avait pas franchement théorisé, c'est-à-dire on s'était pas vraiment dit, tu vois, on va essayer de mettre des prénoms. En fait, on faisait un peu des bon, des histoires qui nous plaisaient, puis des prénoms autour des copains de nos enfants. Et puis en fait, dans, bah, dans la France, la vie réelle, tu vois, les prénoms de tes enfants, c'est plus Marie, Julie, Pierre et Jean. C'est, les écoles sont riches de diversité, etc. Donc nous, on prenait un peu ça et tout. Et c'est vrai qu'on avait commencé à recevoir un peu des messages de gens nous disant « Ah, ça fait plaisir qu'il y ait une petite qui ait un prénom consonance asiatique et un autre consonance maghreb et un autre consonance machin. » et du coup, on a pris conscience de ça. C'est-à-dire que c'est au-delà du marketing qui existe aussi, ce marketing de la diversité qui d'ailleurs va dans le bon sens, donc c'est du marketing très positif. Mais nous, on a vraiment vu quand des enfants sont tout contents parce qu'il y a quelqu'un d'une histoire qui leur ressemble, à notre niveau qui est humble, bah, ça fait plaisir. Et ça me fait plaisir que ta fille aime l'histoire de Frida Kahlo, parce que Frida Kahlo, qui est quand même un modèle formidable pour les enfants de rédemption, de force, de courage, de talent, etc. Et donc, bah, ça me fait plaisir qu'elle aime cette histoire.
Elle aime beaucoup. Et écoute, il me tarde de pouvoir lui offrir l'ensemble de la collection.
Bah, avec plaisir. Et donc, juste pour te répondre, on sort des livres maintenant tous les 2-3 mois. Certains que j'auto-édite quand je veux une liberté totale. Et quand le feeling passe bien avec les éditeurs, certains qui sortent avec des éditeurs. Et donc, on s'amuse bien. Voilà.
Ça a l'air très, très bon. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin.
Merci à toi. À bientôt.
À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.